Pourquoi créer ?
Voilà, donc je suis avec Sarah Clénès aujourd'hui.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Sarah.
Et tous.
Oui, et donc voilà, on va avoir une petite discussion. Alors j'ai intitulé hashtag et maintenant on fait quoi ?
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Sous-titre réflexion sur le sens de nos pratiques artistiques dans un monde en basculement. Si tu veux, moi j'ai une première question personnelle en fait, qui est toi, quel est le sens que tu veux donner ou que tu donnes à ta pratique artistique de manière générale. Je rappelle que tu es chanteuse, compositrice. Je sais pas si tu veux te donner un autre titre.
Musicienne. Bah, la danse fait partie de ma vie aussi.
Oui.
Donc oui, danseuse aussi. Ok. Sans doute performeuse.
Voilà. Dire. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça et quel sens y trouves-tu aujourd'hui?
Il y a deux mots qui me viennent. C'est le sens. Ce serait peut-être l'essence. L'apostrophe essence, et puis plus pour rebondir sur le titre de ce podcast, résister aussi. Par rapport au sens de mes pratiques artistiques, ben, c'est pluriel. Il y a clairement une dimension personnelle dans le sens où c'est une pratique, enfin ce sont des pratiques qui sont d'une certaine manière d'un ordre un peu spirituel. En tout cas, elle m'aide à revenir à une certaine essence, sans doute déployer à l'intérieur de moi quelque chose qui me ferait peut-être devenir un être meilleur. Voilà. Alors ça peut sonner un peu bateau, mais je crois que vraiment, une des premières choses que moi, ça m'apporte dans ma vie, c'est ça. Et du coup, ça rayonne.
Dans le sens, ça se partage.
Ça se partage, tout à fait. Et puis de le faire avec d'autres personnes aussi, ça crée d'autres choses. Et quand je parlais de quel sens a nos pratiques artistiques dans un monde en basculement, ben il y a résister et il y a résister du coup en créant du lien. Alors créer du lien entre nous, évidemment, avec les personnes qui partageraient, qui entendraient la musique ou qui verraient nos créations.
Donc entre les acteurs et les actrices de ces arts musicaux et danser, ou les spectacles, et le public, en fait, aussi.
Voilà, enfin, tous les arts, ouais. En général. Mm-hmm. Hein, mais il y a évidemment dans cette forme-là, donc la forme plus performative, quoi, de quelque chose qu'on partage au public. Et puis, il y a aussi la forme à travers la transmission, quand on donne cours. Mm.
Oui, toi, tu donnes quand même pas mal de cours.
Oui, depuis peu, je redonne beaucoup de cours, et en fait, j'y trouve beaucoup de sens, justement.
D'accord.
À l'heure actuelle. Je me suis vraiment posé la question dernièrement de... Enfin, ce serait quoi ma forme à moi de résistance au milieu de ce chaos et de ces fascismes montants et...
Oui, on va en parler de ça, mais c'est cette idée de monde en basculement, justement. C'est intéressant, tu dis résister, donc, et tu trouves du sens à donner cours. Et pour quelle raison tu vois ce sens-là en termes de résistance, justement?
Mais je pourrais le trouver aussi en montant un nouveau répertoire avec un groupe. Et c'est juste trouver aussi la manière de le partager, peut-être à plus grand. Mais ici, je suis juste en contact directement avec des jeunes qui sont pleins d'interrogations, et les mêmes que les miennes, évidemment.
Tu donnes cours au conservatoire à Anvers, c'est ça? Tu as des jeunes...
Entre 18 et 25 ans, je dirais. Enfin, ou même plus. À l'IAD aussi, et puis des cours privés, enfin... D'accord. Ou des stages aussi ponctuels, mais en gros c'est pas spécialement qu'on parle de politique, mais c'est plutôt une manière d'être qui simplement va aller titiller, éveiller une créativité et une autre manière de voir les choses ou de les vivre. En fait voilà, c'est ça. Dans mon questionnement par rapport à ce monde en bascule, il y a quelques semaines j'avais l'impression de jeter l'éponge. J'étais complètement brainwashed par ce que les médias, je vais dire main, relayé, et que c'était quand même principalement à du 85% les absurdités, enfin c'est pas d'absurde, c'est les catastrophes, enfin les décisions catastrophiques que prenaient notamment Trump, Elon Musk et compagnie, enfin voilà, bon, voilà.
Les grands politiciens
les grands...
qui dirigent, enfin et pas qui... que les politiciens évidemment, puisque Elon Musk n'est pas un politicien, mais
non, mais qui ont une influence sur le cours des choses, sur des millions, des milliards de personnes, on va dire. Après on ne sait pas ce qui se passe dans plein de parties du monde, hein, mais donc les médias en tout cas relayaient principalement ça, et Et il y avait ce truc de mise en place de « Ok, on va réveiller les armées », et il y avait presque une exaltation
de la guerre.
De « Ouais, on va... » Enfin, c'était complètement fou pour moi, et enfin, ça l'est toujours.
Ça l'est toujours.
Et qu'il y avait tellement peu de voix ou tellement peu de place donnée dans le main média pour des discours antimilitaristes. Alors bon, c'est discutable aussi, hein, tout ça, mais en tout cas, j'étais juste sidérée par le fait qu'il y avait la place que pour ce récit-là. Mmh. Et je remarquais chez moi quelque chose qui commençait à comme jeter l'éponge. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mmh. Voilà, je me disais, mais tiens, c'est parce que j'ai que ça comme nourriture. Enfin bon, alors je consulte évidemment d'autres médias alternatifs, etc. Et je me suis juste remise à rêver de qu'est-ce que ce serait si tout le monde avait aussi comme nourriture 50-50 ou bien plus, même d'autres récits. Donc voilà, on parle de ces grands dirigeants et puis à côté de ça, on parle aussi de démarches alternatives qui créent du lien, qui...
Oui, parce qu'il y en a énormément aussi.
Il y en a énormément. Ce que je constate, moi, c'est que toutes ces démarches alternatives existent déjà. On fait déjà autrement. Mmh. Et c'est ce qui est mis en lumière dans les médias. Oui. Qui justement, enfin pour moi, il y a une balance dont je rêve. Enfin voilà, allez, Cyril Dion et compagnie, pendant justement la période Covid, il parlait, il a sorti ce livre. Enfin, un autre récit est possible par rapport à tout ce qui était écologie et tout ça. Enfin, si on se met d'autres choses en tête et qu'on voit qu'il y a déjà des démarches et d'autres manières de faire qui existent déjà, je pense qu'on sera déjà moins apeuré, on sera moins sidéré et on sera plus prompt à l'action et à la... Enfin, dans quelque chose qui nous nourrit. Tout ça, moi, il y a quelques semaines, m'a mené à me dire, ben, en fait, ma manière à moi de faire partie de ce monde-là aujourd'hui, et ce qui pourrait faire sens pour moi aujourd'hui, c'est relayer toutes ces démarches, tous ces discours, mettre la lumière dessus à ma manière, via les réseaux sociaux, en faisant des posts, des partages, soit de ces prises de parole, soit de ces démarches, ou encore relayer la beauté, en fait. Elle est là, tout le temps. Et relayer la beauté de certaines musiques, de découvertes que je fais, ou d'un tableau, ou d'une exposition, ou d'un spectacle. Voilà. En fait, je me suis dit, ce serait ça, pour moi, résister. Alors, ça ne veut pas dire que je peux pas... que je n'irai pas manifester, par exemple, lundi
31 mars
2025 pour la culture et compagnie. Mais au quotidien, ma lutte, c'est de faire de la place et de l'espace pour ce qui existe déjà là. Et c'est la beauté qui est tout le temps là, en fait. Et oui, à travers la donner cours aussi, enfin, en fait c'est ça, c'est allumer quoi, allumer la flamme de la créativité, d'une autre manière de voir les choses, de, en fait cette souplesse qu'on a à créer des choses et à imaginer des choses en musique, ben, c'est une manière d'être pour moi, je crois, qui est possiblement transposable dans nos quotidiens. Et c'est là que je veux dire que quelque part c'est une démarche presque de fond, avant même de faire une note de musique. Ça rejoint ce que je disais du coup au début, quand je parlais de quelque chose qui nourrit un côté spirituel à l'intérieur de moi.
Oui.
Et voilà, quand on va à un concert, ou qu'on voit un spectacle, ça vient réveiller ça aussi, des vibrations, enfin, voilà.
Voilà, après, il y a quand même... Il y a aussi le concret du quotidien, de comment est-ce qu'on s'en sort, simplement économiquement. Il y a la menace qui plane un peu sur notre tête de ce statut de travailleur et travailleuse des arts qui, on ne sait pas combien de temps il va durer, il a été réformé en octobre 2022. Toi, tu as le statut ?
J'ai le statut et bon, voilà, vu que je donne cours, je l'ai en complément. Et après, voilà, il y a plein de personnes qui ne l'ont pas non plus. Mmh. Et...
En fait, voilà, ma question, c'était... Qu'est-ce qui t'a permis de continuer ta pratique artistique toutes ces années ? Et quelles ont été peut-être les difficultés ou les moments où ça s'est remis en question ? Et parfois, est-ce que tu t'es senti privilégié ou soutenu justement par l'État, par ta famille, par... voilà.
Ben, c'est clair que le statut donne la liberté d'investir son temps dans les choses qui font sens. Mmh. Et que s'il n'était plus là... pour moi, en tout cas, donner sens à nos pratiques artistiques, c'est indépendant de l'aspect financier. Enfin, si je pratique quelque chose, je sais que je le pratiquerai aussi, sans doute un peu différemment au niveau du temps que je pourrais y consacrer, mais ce seront La même urgence, en tout cas, d'en faire sera là aussi, même si je dois travailler dans un magasin pour gagner ma vie.
C'est ce qu'on voit un petit peu avec des scènes à l'étranger, dans les scènes à New York, par exemple, où les artistes sont quand même, continuent quand même de poursuivre leur... besoin vitaux de jouer de la musique, par exemple, malgré qu'ils aient un ou deux boulots à côté. Quoi.
C'est
après,
ça.
Après, est-ce que c'est enviable ? C'est un peu aussi ça.
En tout cas, c'est sûr, je pense qu'aussi ça égrène. Quand on est dans des situations comme ces musiciens et musiciennes new-yorkais dont tu parles, ben, voilà, y en a qui ne doivent pas tenir le coup, du coup, parce que c'est trop demandant.
Bien sûr.
Je me sens clairement dans une situation luxueuse, actuellement, de pouvoir choisir. Après, parfois... C'est aussi étrange comme plus de contraintes nous amènent à faire, à aller vraiment plus vers l'essentiel et l'urgence pour nous-mêmes. Mmh. Et que dans des moments où il y a presque trop de luxe et de confort, peut-être qu'on se dilue. Bon, je ne suis pas adepte de la difficulté pour avancer. Hein. Je crois qu'il y a des personnes qui ont un focus très très clair avec le temps qu'ils ont pour réaliser les choses qui leur sont essentielles. Je suis moi par nature quelqu'un qui a besoin de cadre pour avancer, donc je m'en mets moi-même, je m'en crée. Ce que je veux peut-être dire, c'est que je pense à des pays qui sont dans des dictatures ou des gens pour qui ce n'est pas le métier d'être musicien. Ouais. Dans le sens, ils ne gagnent pas leur vie, mais on sent que la musique leur permet de tenir et de traverser quelque chose, que ce soit parce que c'est culturel ou parce que c'est, ça les habite, simplement.
Moi, ce que ça me questionne, ce que tu me dis là, c'est un peu justement cette place qu'on donne dans la société à ces métiers. Ça, moi, c'est ça que ça me questionne un peu, ce que tu me dis là. C'est de dire, OK, ça existerait toujours. Tu aurais toujours l'urgence et le besoin de faire de la musique, même si tu travaillais dans un magasin, par exemple. Mais qu'est-ce qui est...
Qu'est-ce que ce serait peut-être notre rêve pour nos métiers, quoi,
oui, et,
aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui permettrait justement que cette manière de vivre et ce dont tu parlais par rapport à la transmission puisse continuer d'exister et qu'on ne soit pas en fait rangé dans un système où on fait juste le boulot, allez, boulot métro-dodo pour gagner notre vie et que dans notre temps libre, on fait notre passion et qu'au final, on soit complètement éreinté, quoi.
C'est une question plus politique, évidemment. C'est juste que les gouvernants et gouvernantes actuelles puissent recomprendre à quel point la culture est créatrice déjà de travail pour plein de personnes. Je lisais là un chiffre hier, il y a quand même 200 000 emplois en Belgique qui sont liés à la culture. Puis au niveau du lien socioculturel, ça agit. Donc, et puis ça fait du bien à tout le monde. Enfin voilà, juste, juste se rendre compte ou du bien ou ça questionne. Je veux dire, c'est pas que divertissant ou que pour le bien-être, c'est aussi un espace de questionnement et de résistance et de mise en abîme de plein de choses qui se passent. Enfin, c'est nécessaire, quoi. C'est juste nécessaire dans une société, en tout cas, où on a envie de promouvoir la diversité de points de vue, promouvoir, la soutenir, en fait, et voir que c'est riche. Voilà, si les gouvernants pouvaient recomprendre ça, parce que je pense qu'il y a eu des périodes où c'était hyper clair et où, du coup, il y avait beaucoup de soutien.
Oui, j'allais te demander, alors pourquoi est-ce qu'on représente, donc, comme tu dis, de l'emploi, du travail, les 8000 personnes qui bénéficient d'un statut, ça représente vraiment des miettes.
Sur les 10 millions de personnes de Belges.
J'ai regardé les chiffres, il y a environ 300 000 chômeurs en Belgique, donc on est 8000 sur 300 000. On touche entre 1400 et 1700 euros net par mois, donc ça représente vraiment des cacahuètes. Hein, je me demande pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent.
On veut saper ça.
Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent de manière si frontale ? Parce que là, on peut quand même parler d'un affront très direct. Et tu étais en train justement de répondre un peu à ça avec cette réflexion sur le fait que de soutenir les différents points de vue et la diversité, quoi.
Je suis pas dans la tête des politiciens, mais des politiciennes, mais pour asseoir une manière de voir le monde, on a toujours muselé du coup les artistes. Donc c'est une manière de couper, en coupant la chic et en coupant les vivres aux artistes, d'espérer que ça... En tout cas, la conséquence serait sans doute qu'il y aurait moins, ou peut-être plus, je sais pas, en réaction. On ne sait pas comment on réagirait là, prochainement.
On est dans une période quand même de basculement, justement, par rapport à tout ce qui se passe politiquement dans notre pays et aussi autour, parce qu'on n'est pas isolé dans ce cas-ci.
Non, non.
Ils sont en train de couper dans les budgets de la culture en France énormément.
En France, oui, carrément.
Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a des créations qui nécessitent des budgets, qui nécessitent des subventions, qui nécessitent vraiment de l'argent, au-delà du statut, simplement pour pouvoir créer une pièce de théâtre, pour pouvoir faire un film, pour pouvoir faire un album.
Ou même des lieux. Enfin, en France, il y a des lieux qui ferment. Du coup,
il y a énormément de lieux qui ferment.
Et c'est des lieux de rencontre, enfin, c'est des lieux d'échange et enfin, qui font encore sortir potentiellement une partie de la population de chez eux pour être un peu dans un contact en chair et en os plutôt qu'être derrière ses écrans, quoi. Mm-hmm. Enfin, son écran ou ses écrans. Voilà, pour moi, tout ce qui peut faire sortir les personnes de chez elles et les faire se rencontrer, c'est l'essentiel. C'est ce qui pourrait encore nous sauver. Mm-hmm. On l'a vu en plus, on l'a vécu. Il y a eu déjà un premier basculement après le confinement, enfin pendant le confinement. On a pris des habitudes où on regarde beaucoup plus de films sur, enfin de chez nous. Il y a les lieux culturels quoi, le disent, la fréquentation. Ça n'a pas été facile de redynamiser ça après ce confinement où on avait vraiment pris d'autres habitudes. Mmh. Et il y en a toujours qui sont inscrites du coup depuis. C'est un peu une politique en tout cas actuellement qui pourrait nous mener à encore moins avoir l'occasion de partager et de se retrouver. Et
voilà, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire justement, nous, dans notre petite place on a l'impression d'être un peu une goutte d'eau dans un océan parfois, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Alors tu parlais du quotidien déjà, de partager les belles choses.
Ce qu'on fait là déjà. Et sinon, à mon sens, d'encourager des initiatives pas locales, on le dit concernant tout, concernant des économies locales, concernant des démarches de jardin, de potager, enfin tout ce qui est local et qui peut sauver des parcelles de terrain ou peut-être des multinationales ou de moins multinationales, mais tout ce qui peut encourager à reprendre, sauver du territoire en fait.
Qu'on ne
soit pas récupérer du territoire, voilà, qu'on ne soit pas colonisé par des idées, donc dans nos têtes.
Dans nos têtes.
Et mais aussi physiquement, enfin dans la réalité. Voilà. Et je pense, concernant la musique, à genre des concerts de salon. Enfin, je sais qu'en France, pour avoir suivi il y a peu un workshop avec des actrices qui ont des spectacles d'art de rue, ben, ils disaient en art de rue, ça commence à souffrir de ça aussi. Et puis, il y a aussi toujours plus d'artistes. Ils disaient qu'il y avait de plus en plus les dernières années de petits lieux, de tiers lieux, des granges, enfin des espèces de réseautages comme ça, de granges
qui
en granges
qui se créent,
où les particuliers organisent des spectacles. Donc, quelque part, des réseaux parallèles qui sont indépendants du pouvoir subsidiant.
C'est ça. Mais alors, ce qu'on voit un petit peu en Belgique aussi, enfin à Bruxelles, il y a de plus en plus de concerts d'appartements, même si c'est parfois un peu de l'entre-soi et un peu de l'entre-nous pour faire vivre comme on peut, ou au moins tester des nouveaux projets, même si au final ça rapporte rien, parce que c'est les amis qui mettent...
C'est peut-être juste le souci de ça, c'est comme tu dis, une tendance peut-être à l'entre-soi, même si je pense qu'il y a moyen que ça ne le soit pas, mais bon, enfin voilà, il y a des choses à inventer de ce côté-là. Mmh. Et puis je crois qu'il y a des réseaux où ça ne l'est pas. Enfin, je pense à de village en village en France, peut-être parce que le territoire est plus grand aussi, mais du coup, ben, ce seront les villageois qui viendront dans cette grange et puis ils auront peut-être accès à quelque chose qu'ils auraient...
D'habitude, ils n'auraient jamais été voir.
Je pense qu'il y a moyen de créer ça en Belgique aussi. Et l'autre aspect, comme tu dis, économiquement, c'est vrai que c'est du coup beaucoup moins viable pour les artistes, mais par contre, du coup, ça encourage la création. Enfin, voilà. Comment vivre de ça, c'est compliqué.
C'est compliqué. Tu parlais de récupérer nos territoires, et là, ça me faisait penser à nos droits, justement, avec les plateformes de streaming, par exemple, qui sont clairement l'un des aspects très flagrants de comment on peut se faire déposséder, en fait, de notre musique. Et c'était une autre question que j'avais, c'est la question de la dissonance cognitive qu'on a parfois entre des idéaux qu'on a, puis de choses qu'on est obligé de faire, parce qu'on est un peu contraint aujourd'hui de mettre notre musique sur certaines plateformes pour pouvoir justement qu'elle soit partagée, comme Spotify, pour nommer l'une des pires en termes de rémunération d'artistes. Mmh. et de se dire, ok, est-ce qu'il y a moyen de faire autrement tout en continuant de faire connaître notre travail aussi, parce que je pense que la raison principale pour laquelle on met quand même tout notre travail sur ces plateformes, c'est qu'on a envie que ce soit partagé, c'est qu'on a envie que ce soit connu, et c'est parce qu'il y a une demande d'une partie des programmateurs, des programmatrices, que ce soit visible pour pouvoir attirer justement du monde. Donc il y a toutes ces questions-là, comment justement faire face à ça. Il y a certaines personnes qui boycottent, qui disent, moi je retire toute ma musique de ces plateformes.
Il y en a qui l'ont fait dans des artistes qui, genre Johnny Mitchell, je pense.
Il me semble que John Zorn aussi n'a aucune de sa discographie sur Spotify.
Mais voilà, c'est des personnes qu'on connaît déjà. Donc, par rapport à ce dont tu parles, qui est pour de jeunes artistes ou de moins jeunes artistes, mais qui n'ont pas un rayonnement, une popularité aussi grande que ces artistes-là, c'est une manière, en effet, de pouvoir la diffuser, cette musique. Oui, c'est compliqué. Pour moi, c'est une réflexion à continuer à voir et possiblement, du coup, en collaboration avec les programmateurs, programmatrices. Et je pense notamment à l'association des musiciens de jazz belge, les Lundis d'Hortense, avec lequel on a cette réflexion-là pour le moment. Mmh. Comment ce serait d'inviter les personnes sur d'autres plateformes qui rémunèrent un peu mieux les artistes et d'imaginer une transition vers ça, mais ça se fait petit à petit parce qu'on a pris un pli, en fait. Donc, c'est voir comment on peut proposer d'autres récits. C'est toujours ça.
Oui.
Proposer d'autres récits, d'autres manières de voir la chose. Et, alors là, je vais vraiment juste dire quelque chose qui m'est très personnel. En ce qui me concerne, je crois que je peux accepter aussi l'idée de ne pas spécialement visé avec la diffusion de la musique des groupes avec lesquels je joue, quelque chose d'international, mais qu'agir plus localement, c'est possiblement OK aussi. Enfin, y a comme aussi, là je pense à une interview que j'ai réécoutée récemment de Leïla Martial, une grande lettre qui avait été émise par un grand collectif en France au moment du Covid.
Sur l'écologie.
Sur l'écologie pour de la musique vivante, où elle parlait des modèles de comment diffuser la musique. Jusque-là, quel modèle avait été utilisé, c'était quoi en fait l'idée qu'on a de l'artiste qui réussit, quoi. C'est celui qui tourne partout,
qui voyage,
va 24 heures à Taïwan pour donner un concert, et puis 24 heures à Berlin, et que c'était quand même franchement questionnable, justement par rapport à l'aspect écologique, évidemment. Je me disais, mais tiens, ce serait quoi de questionner aujourd'hui pour moi le modèle du musicien qui réussit, et est-ce que je peux pas m'en inventer un nouveau pour moi-même? Est-ce que c'est vraiment de tourner partout en Europe et d'avoir 50 concerts? Enfin, il y a cet aspect-là, et aussi le comment, évidemment, et donc ça rejoint du coup cet article-là.
Est-ce que tu veux prendre l'avion tous les jours? Est-ce qu'il y a moyen de voyager autrement?
Il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi l'aspect de plus localement et pour moins de personnes. C'est aussi OK, en fait. Point d'interrogation. Hein. Je suis en train de me mettre d'accord avec...
Ça fait partie vraiment de ces choses-là de dissonance parfois qu'on a. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec cette vision de l'artiste voyageur.
Et
ça fait partie aussi des choses qui m'ont encouragé et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et ouais, voilà.
En ce qui me concerne, l'artiste voyageur, en fait, il rencontre.
Aussi,
et donc, il crée du lien. Rencontrer d'autres cultures. Et la musique, c'est tellement ça, en fait. C'est rencontrer d'autres personnes.
Tout à fait. Je pense que l'aspect local que tu définis là, il est assez important aussi parce que parfois, on sent un déracinement quand même, le fait de tout le temps voyager. En ayant vu des documentaires d'artistes qui tournent tout le temps et qui n'en peuvent plus, en fait.
Ça répond à un modèle qu'on nous a mis dans la tête et qu'on continue de nous mettre dans la tête. Hein. Enfin, tous les trucs... du star system, quoi. C'est un artiste qui réussit. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, qui réussit? Donc, oui, ça questionne ça, pour moi. Je me demande ce que ça aurait pu être pour un Stromae, par exemple, d'avoir peut-être un peu moins de dates, mais de pouvoir rester sur place et rencontrer les gens. Enfin, bon, après, ça, c'est mon délire à moi, mais un modèle auquel j'adhérerais volontiers, ce serait de... OK, on va jusqu'à Amsterdam, faire une date, super, on reste un jour de plus et on donne une masterclass, ou bien on fait une session avec des musiciens sur place, on rencontre, on échange, il y a un bord de scène après le concert,
Ouais.
Enfin, il y a quelque chose où on crée du lien et puis ça recontextualise, ça nous fait juste ancrer la musique dans quelque chose. Après, tous les musiciens, toutes les musiciennes ne sont pas dans cette idée-là. Enfin, je sais qu'il y a des gens, pour eux, c'est musique first et je respecte totalement. Je ne dis pas qu'il y a un truc à faire plus qu'un autre. Moi, j'aime le contact. Et avec les gens, ça me nourrit en fait. Et ça, c'est ce qui fait qu'après, ça donne du sens. Ça vient nourrir la musique ou la danse ou peu importe. Ça nourrit l'humain que je suis. Et puis du coup, tout ce que j'aurais potentiellement envie d'exprimer. Voilà, quelque chose comme ça.
Chouette. On a dit plein de choses. Je ne sais pas si tu veux rajouter...
Moi, j'aurais envie d'entendre toi. C'est quoi qui fait sens pour toi dans ce monde en basculement ?
Je suis vraiment en questionnement également, hein, parce qu'il y a quand même parfois cette fierté qu'on a de réussir. Voilà, moi, je viens de sortir un album avec Macondo, par exemple, et juste de me dire, bon, voilà, toutes ces choses-là, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris un investissement, c'est absolument pas rentable. C'est très questionnant par rapport au principe même de le faire, en fait, tu vois. Et en même temps, c'est enrichissant et ça fait avancer d'une certaine manière, tu vois. Et simplement de se dire...
Ça fait avancer quoi ?
Bah, moi, je sens que ça m'a fait grandir de sentir que, voilà, je peux... J'étais pas tout seul, mais tenir un projet et le faire et arriver jusqu'au bout, en tout cas, du processus de dire, OK, on a créé quelque chose. Et je pense que, voilà, il y a différentes échelles, mais un Chris de Fort qui a écrit un opéra, qui a passé 5 ans à le faire, je pense que bon, c'est très demandant, mais une fois que c'est fait, ça doit être quand même vraiment une forme d'accomplissement, j'ai l'impression. Ou je pense à Fabrizio Cassol qui fait un nombre incroyable de spectacles, de pièces.
Bah, lui, c'est un créateur de liens.
Voilà, il a passé sa vie justement à voyager, à créer des liens, à faire des ponts entre les différentes cultures. Et là, je vois cette richesse, quoi. Après, c'est vrai que ça pose question par rapport au... Parfois, simplement au confort du quotidien, dans le sens de la projection, de se dire, OK, comment est-ce que je peux me projeter dans 10 ans et de mettre ça en perspective avec la vie qu'ont les autres personnes, parce qu'on n'est qu'une minorité d'artistes en Belgique, de pouvoir vivre de ça et de se rendre compte de la vie qu'ont les autres. Et parfois, je me sens en décalage total. Et parfois, j'aime bien ça et parfois, ça me perturbe vraiment. Et je vois d'autres personnes qui ont choisi de faire un métier qu'ils aiment bien. Hein. C'est pas qu'on doit faire un truc qu'on déteste ou quoi, mais de pas du tout avoir les mêmes réalités que moi. Et je me dis, mais en fait, dans quel monde est-ce que je vis, quoi ? Est-ce que je suis heureux de vivre dans ce monde, justement, un peu à part ? Et il y a certaines périodes où oui, vraiment, parce que je me dis c'est génial, je peux aller voyager, je peux me réveiller le matin et penser au concert du soir et voilà, et être excité de comment ça va se passer, de comment on va transmettre ça. Et puis il y a d'autres moments où je me dis oui, c'est quoi la réalité
Est-ce qu'il y en a une? J'ai une amie qui parle de parcelle de réel. Et je trouve que c'est une belle image, parce que je pense que d'autres personnes, on prend les 10 premières personnes qu'on croise dans la rue, elles ont chacune tellement leur réalité, comme nous-mêmes, leur réseau, leur... et voilà, enfin, moi je fantasme parfois un « everyone is seeing the same thing », et en fait, ce sera jamais possible, mais par contre, et c'est là que l'art joue un rôle, à mon sens, ou des lieux culturels, potentiellement, on peut-être se faire croiser un peu des gens qui ont des parcelles de réel très très différentes et du coup se rencontrer. Et...
Oui, c'est dont tu parlais avec le côté local et le fait d'aller dans des villages par exemple pour...
Ou même à Bruxelles, ou même jouer dans la rue et voir les gens qui se regroupent autour de nous, avec plein de milieux différents, etc. Comment est-ce que, ne serait-ce que pour 10 minutes, on peut être ensemble ? Et puis, y a des démarches de maisons de jeunesse, etc., de maisons de quartier, quoi, qui font plein de projets avec des jeunes du quartier dans lesquels sont ces maisons. Et où ça crée du lien.
Créer du lien, c'est un truc qui est revenu.
Créer du lien, et en fait, juste aussi, pour moi, ça rejoint un espoir qu'on puisse comprendre qu'on peut vivre ensemble, même si on n'a pas les mêmes...
Pas la même réalité.
Réalités, les mêmes croyances.
C'est vrai que ça, c'est un petit peu ce qui, moi, m'inquiète justement dans ce monde en basculement, c'est cette tendance à l'unification.
Au monopensée.
Cette pression-là, je pense que tout le monde la ressent. Le fait qu'il faut tous fonctionner avec cette même plateforme, qu'il faut tous fonctionner avec cette même, ces injonctions à la norme, en fait.
C'est ça. Une société qui va dans une certaine normalisation, plutôt que pluralisation. Il y a un film qui s'appelle « Nous tous », j'oublie maintenant l'auteur, où lui est parti justement, enfin suite aux attentats qu'il y a eu ici à Bruxelles, à Malbec, il est parti à la recherche parce qu'il se sentait dans la peur, du coup. Voilà, enfin le fait de, suite à ça, associer les terroristes à l'islam et voir du coup donc, cette espèce de mono-pensée que du coup, toute l'islam était terroriste.
Une réduction abominable, en fait.
Voilà. Parce que... l'a fait vraiment aller à la recherche de plusieurs démarches qui étaient dans l'idée de vivre ensemble malgré des différences de pensée, enfin de croyances, ou un passif, ou comment, par exemple, en Yougoslavie, on pouvait revivre ensemble après ce qui s'était passé là. Ouais, ouais. Il est allé à la rencontre de plusieurs lieux où des démarches étaient... Des vivre ensemble était vraiment effectivement possible, quoi. Bon, c'était assez inspirant. Après,
c'est
voilà.
Nous tous, c'est ça le film.
Nous tous, okay. Ça s'appelle, oui. Je te retrouverai le nom du réalisateur.
Je trouve ça vraiment intriguant. Et justement, je lisais aussi un livre de Gaël Faye que tu as peut-être lu.
Ah non, non, c'est mais vraiment, oui.
Il y en a deux. Il y a Petit Pays et il y a Jacaranda qui est vraiment le génocide au Rwanda et comment ce pays a su se relever de cette coupure nette dans la société et comment encore aujourd'hui ils arrivent à ne pas oublier mais continuer d'avancer et d'aller vers l'avant. Et c'est vraiment très intéressant ce bouquin.
Je me souviens dans le film, il parlait dans les principes, sortir de la victimisation. C'est vraiment pas évident, hein, ça demande une grande, grande résilience. Sortir de la victimisation, apprendre de l'autre et apprendre avec l'autre. Et veiller à ce que chacun puisse vivre dignement. Et que c'était des principes de base qui pouvaient potentiellement nous aider à vivre ensemble, même en pensant pas pareil. Super. Moi, je sens pour moi-même que dans des moments d'insécurité, même dans mon entourage proche, le conflit, et donc ça me questionne beaucoup par rapport à ce que j'espère pour le monde, mais les moments où je sens qu'on n'est pas d'accord avec mes proches peuvent m'atteindre beaucoup, et je me dis, mais comment est-ce que je peux juste être en paix avec le fait qu'on n'est pas du même avis, et vivre en paix, et être OK? Parce que si même déjà avec mes proches, ma famille, en ayant des visions différentes, on ne peut pas vivre ensemble, comment je peux faire société avec d'autres qui ont vraiment des visions du monde peut-être très, 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 très différentes? Donc voilà, je faisais la distinction pour moi entre vivre en harmonie, et ça veut dire que du coup, il y a plusieurs notes pour revenir à la musique. On n'est pas sur un unisson, quoi. Et je trouve que parfois, la société aujourd'hui, enfin, les gouvernants, ils sont unissons. Voilà. On va penser vivre, comme ça. Point.
Vivre en harmonie, je pense que c'est une belle manière de terminer peut-être cette discussion.
Oui.
Et y a eu plein de belles choses, donc je te remercie.
Et ça se cherche, hein. Ouais. C'est tout le temps...
C'est de la recherche. Hein, c'est...
Voilà, mais du coup, cet espace de recherche-là demande une écoute et de ne pas être acculé dans des peurs. Et ça demande de l'espace, en fait. Mmh. Et des espaces, par exemple, culturels. Pourquoi pas.
Merci beaucoup, Sarah.
Merci à toi, Sylvain.